Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre au micro d'Idée FM pour ce nouveau rendez-vous conte au cours duquel je vais vous raconter une nouvelle fois, une dernière fois, comment derrière la réalité, notre réalité la plus quotidienne, joue en sourdine de bien belles et bien étranges histoires. Des histoires venues souvent de la nuit des temps et des hommes, des histoires inconnues, oubliées, mais qui, elles, ne nous oublient pas et qui vous feront dire, je l'espère, rendez-vous compte. Ouais, une dernière fois, parce que la saison s'achève. Plus de 40 rendez-vous comptes depuis septembre dernier. En juillet et août, ce seront des podcasts qui vous seront rediffusés. En attendant, une dernière histoire à vous couper le souffle. Vous verrez, c'est vraiment le cas de le dire. Mais avant, selon vous, quelle est la femme la plus embrassée de tous les temps? Ouais, la plus embrassée. Oh, je vous donne pas tout de suite la réponse. Histoire de, comment dire, noyer le poisson. Noyer la sirène plutôt, avec, pour commencer, un accompagnement musical, ce titre « We Bleed for the Ocean », une chanson, figurez-vous, d'Ariel Dombal et de Nicolas Kerr, 2020, une chanson appelant à protéger les océans pour lesquels saignent les sirènes. À propos de sirène, Paris, dans les années 1880, morgue du quai de l'Archevêché, tout près de Notre-Dame, cadavre d'une jeune fille repêchée dans la Seine. À peine 16 ans, aucune trace de coup, ni de violence, suicide. Pourtant, quelque chose interpelle les employés de la morgue, ce sourire énigmatique, étrange pour une suicidée, non? Et puis, eh bien, son visage ne présente pas les boursouflures qu'un séjour dans l'eau aurait dû provoquer. Blood is flowing freely on the seventh day. D'ailleurs, qui est-elle? Aucun indice, aucun moyen de le savoir. Alors, eh bien, justement, les grands moyens de l'époque. Son corps est tout simplement exhibé. Comment ça, exhibé? Ouais. Comme les autres cadavres anonymes de la morgue, derrière de grandes vitres, pour permettre au public de venir les morguer. Les morguer? Oui, quoi? Bien les regarder, à la morgue, pour les identifier. Ah, je pense que vous ne connaissez sûrement pas le premier sens du verbe morguer. Eh bien, examiner les prisonniers à l'entrée de leur geôle, les regarder, avec un peu de mépris, de suffisance, un peu de morgue, quoi. Tout simplement pour bien les reconnaître, leur faire sentir leur position inférieure. Mais dites-moi, comment ça, le public? Ouais, figurez-vous qu'à l'époque, la morgue est une véritable attraction populaire. On s'y précipite, en famille, pourquoi pas d'ailleurs. Non seulement le spectacle est saisissant, imaginez ces cadavres exposés à la vue de tous, mais aussi le spectacle est gratuit. Zola écrivait déjà en 1867 dans Thérèse Raquin, je cite, « La morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses que se payent gratuitement les passants, pauvres ou riches. La porte est ouverte, entre qui veut. » Tiens, devinez les jours de plus grande affluence, les lendemains d'émeutes, de catastrophes, et les années fastes, 1 million de visiteurs à la morgue. Carrément gore, non? Et ce n'est qu'en 1907 que le préfet Lépine ordonnera la fermeture de la morgue au public. Il faut dire que la médecine légale avait fait suffisamment de progrès. Ouais, on pouvait se passer du public pour identifier les cadavres inconnus. Par exemple, grâce à la photographie, entre autres. Donc, l'inconnu de la Seine, comme on la surnomme déjà, voit défiler des centaines de Parisiens? Ouais, derrière sa vitre. Sa vitrine, quoi. D'où le surnom de maison de verre pour désigner la morgue. Alors, on découvre son identité? Eh bien, non. Malgré les foules qui se pressent, personne ne parvient à reconnaître celle que l'on appellera très vite, en raison de son sourire mystérieux, la Mona Lisa de la Seine. Rendez-vous compte. Voilà. L'histoire s'arrête là? Elle commence en réalité. Elle est très belle, cette jeune fille. et son sourire, fascinant, envoûtant, non ? Alors, un employé de la morgue fait réaliser un moulage en plâtre de son visage. Pratique assez courante à l'époque, à la demande des familles, par exemple, qui veulent garder un souvenir de leur défunt. Ou alors, réservé plutôt à des personnages illustres, des artistes. Mais, pour la postérité, l'inconnu est déjà célèbre, finalement.
C'est la période où on va créer ce qu'on appelle le salon bourgeois. On collectionne des pièces de musique qu'on peut pas acheter, en effet, puisqu'elles sont dans les musées, et parce qu'elles seraient trop chères. Donc on prend des copies. Et avoir des copies, c'est montrer, c'est faire étalage de sa propre culture, c'est faire étalage de son savoir, et d'une manière assez flagrante, qu'on est parvenu à un certain niveau, à un certain standing social.
Non, l'histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Parce que le mouleur, un certain Lorenzi, va exposer le masque mortuaire de l'inconnu dans sa boutique, rue Racine, à Paris, en pleine vitrine même. Décidément, comme à la morgue. Et les commandes affluent. Les reproductions du masque se vendent par centaines. Les artistes du Paris bohème en raffolent, surtout à partir de 1902. Pourquoi ? Le poète autrichien Rainer Maria Rilke découvre le masque dans la vitrine. Et eh bien, il fait de l'inconnu l'héroïne de son unique roman.
L'atelier Lorenzi jouit d'une belle réputation et sa vitrine ne manque pas d'attirer les regards. En 1902, c'est en passant devant elle qu'un jeune poète autrichien, Rainer Maria Rilke, le futur secrétaire personnel de Rodin, est victime d'un coup de foudre. De 1902 à 1907, pour se rendre à l'atelier du maître sculpteur, le poète passe régulièrement devant la vitrine où gît la belle endormie. Totalement hanté par ce visage, il en fera une description précise en 1910, dans son seul et unique roman, Les cahiers de Malte Lauritz-Brigge.
Il était beau, parce qu'il souriait, parce que son sourire était si trompeur, comme s'il savait.
Ce roman va créer une sensation. Donc en effet, il va être lu, il va être acheté, il va être médité par l'intelligentsia allemande, autrichienne, de tout le monde germanique. Il va être populaire.
Mais l'inconnu à la pâleur de fantôme et au mystérieux sourire, l'inconnu reste anonyme, si je puis dire. Et vous savez quoi ? Il paraît que de nos jours encore, l'atelier Lorenzi, à l'origine du premier moulage du visage de l'inconnu de la Seine, reçoit près de 300 demandes de ce masque chaque année. Et puis, très vite, au début du XXe siècle, les photographes prennent le relais. Exemple, Albert Rudomine, spécialiste des portraits et de la photographie de nu, 1927, un magnifique cliché, la Vierge inconnue, canal de l'Ourcq, un véritable amalgame de la Vierge, de la jeune noyée et d'autres suicidés dans le canal. Stupéfiante beauté, j'imagine. Ouais, avec maintenant une dimension mystique. Rudomine en rajoute, il réalise un photomontage du portrait flottant sur des nénuphars, rendez-vous compte.
On the floating shipless oceans, I did all my best to smile.
Vous êtes toujours bien sur IDFM. En hommage à notre sirène inconnue, on écoute une très belle version de la chanson pour les sirènes, interprétée cette fois par le collectif d'artistes britanniques This Mortal Coil. Au fait, est la femme la plus embrassée au monde le thème de ce rendez-vous compte, non ? C'est elle ? Un peu de patience. Comme personne ne connaît ni la vie ni la mort de cette jeune fille inconnue, eh bien, les écrivains se chargent de lui en inventer une. Pour certains, c'est une véritable obsession. Exemple, l'anglais Richard de Galienne, le premier à faire apparaître la jeune noyée dans un roman en 1898. Titre, l'adorateur d'images. Carrément, ouais. Il se dit que le masque qui ornait l'un des murs de son bureau aurait fini par avoir, comment dire, une emprise sur l'esprit fragile de Galienne. Et Vladimir Nabokov, vous connaissez ? Ouais, l'auteur russe de Lolita, le sulfureux roman qui met en scène les relations plus qu'ambiguës entre une adolescente et un professeur. Eh bien, rapport avec notre célèbre Mona Lisa de la Seine, comme vous dites, une autre Lolita finalement, non? Eh bien, en 1934, dans un poème que Nabokov intitule « Je vous le donne en mille, l'inconnu de la Seine », la jeune noyée est enchanteresse, mystérieuse, ensorcelante. Ses lèvres sont de gypse enchantées. Dans les foules blêmes des jeunes noyées, tu es plus blême et ensorcelante que toutes. Et d'ailleurs, la soi-disant suicidée incite le poète au suicide. Attends de cette vie le dénouement, n'aimant rien sur terre, toujours je regarde le masque blanc de ton visage sans vie. Je vous le disais, au début du XXe siècle, en Allemagne, l'inconnu inspire de nombreux écrivains. Hans Benkert, dans une nouvelle de 1926, dit de l'inconnu qu'elle nous apparaît comme un papillon délicat, qui, insouciant et euphorique, a volé droit vers la lampe de la vie, allant y brûler ses ailes délicates. Dans une nouvelle de Claire Gaul, 1936, le personnage principal plonge le regard sur un masque funéraire et, tout simplement, meurt d'une crise cardiaque, croyant reconnaître le visage de sa fille. Cette abondante production littéraire a d'ailleurs des conséquences inattendues. Ouais. Par exemple, toute une génération de filles allemandes et des actrices auraient ainsi modelé leur apparence sur celle de notre inconnu. Et même que l'inconnu serait devenu l'idéal érotique de la période, tout comme Bardot dans les années 50. Vous êtes toujours bien sur EDFM dans ce rendez-vous conte consacré à la belle inconnue découverte noyée dans la Seine dans les années 1880. Anonyme, mais pas inconnue, en tout cas pour les écrivains. Par exemple, André Breton, Louis Aragon. Ah, les écrivains surréalistes, ouais, eh bien, ils sont fascinés par ce visage, comme l'employé de la morgue. Ce visage où la mort apparaît si douce, une idée chère aux surréalistes.
Un jour, Aragon et Breton arrivent sur la rue Racine et devant la vitrine de chez Lorenzi, ils tombent sur le masque de la jeune fille et là, ils ont un déclic. Non seulement il y a une démultiplication des masques, donc il y a 10 masques de la même personne qui s'est noyée il y a 10 ans, mais en plus, c'est un masque mortuaire. Donc les surréalistes ont un rapport spécial avec la mort. Pour eux, ce n'est pas un objet effrayant, c'est une clé vers la surréalité.
André Breton et Louis Aragon, qui ont été témoins des horreurs de la guerre, sont subjugués par ce visage où la mort apparaît si douce. Ils font de la noyée de la Seine la muse du courant surréaliste.
Et l'inconnu de la Seine devient donc la muse du courant surréaliste. Quelques années plus tard, Aragon commande une quinzaine de tirages du masque au photographe Man Ray pour illustrer son roman Aurélien, 1944. Figurez-vous que son héros, Aurélien, amoureux de Bérénice, enfin, il tombe amoureux le jour où il réalise que Bérénice ressemble à l'inconnu de la Seine. Et un peu plus tard, Aragon a aussi qualifié l'inconnu de Joconde du suicide. Du coup, un temps, on raconte que l'inconnu, la deuxième Mona Lisa, pourrait être une certaine Eva Laszlo. Qui ? Eva Laszlo, une artiste de music hall d'origine hongroise, assassinée par son amant. Et tenez-vous bien, quel est le nom de son amant ? Louis Aragon, lui-même. Enfin, l'homonyme du célèbre écrivain, bien sûr. N'importe quoi. Ouais, une histoire en réalité inventée de toutes pièces par un photographe du nom de John Gotto. Allez, encore une œuvre littéraire. Jules Supervielle, 1931. L'inconnu de la Seine. Oui, c'est le titre. Cette fois, la jeune fille a un prénom. Ophélie. C'est une jeune femme noyée dans la Seine qui dérive jusqu'au fond de l'océan. Elle allait, sans savoir que sur son visage brillait un sourire tremblant, mais plus résistant qu'un sourire de vivante, toujours à la merci de n'importe quoi. Atteindre la mer, ces trois mots lui tenaient maintenant compagnie dans le fleuve. Document d'archives, Juliette Gréco elle-même nous lit le début du conte de Supervielle. Émission radiophonique, Bonne Nouvelle, Grand Comédien, août 1971.
Je croyais qu'on restait au fond du fleuve. Mais voilà que je remonte. Pensais confusément cette noyée de 19 ans qui avançait entre deux eaux. C'est un peu après le pont Alexandre qu'elle eut grand peur. quand les pénibles représentants de la police fluviale la frappèrent à l'épaule de leur gaffe en essayant en vain d'accrocher sa robe.
Alors, eh bien, Ophélie parvient bien au fond de l'océan et elle doit apprendre à vivre avec les autres noyés. Mais la jeune fille refuse cette existence léthargique, pas du tout d'accord pour être attachée au fond de l'eau. Alors, elle laisse son corps remonter à la surface pour mourir, enfin, pour de bon.
On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers.
2016, l'inconnu de la scène, encore. Auteur, cette fois, Céline Walter. Elle croise le destin de notre célèbre inconnu avec celui de la déesse Sequana. Sequana, celle qui a donné son nom à la scène, c'est ça? Ouais.
Bonjour Marc, c'est Catherine Aumonier, directrice de l'infirmerie de la préfecture de police. Je voudrais ton avis sur un cas assez étrange. Nous avons pris en charge hier matin une jeune femme totalement amnésique que la brigade fluviale a repêchée nue dans la Seine. Merci de me rappeler. Marc, Catherine Aumonier de nouveau. Écoute, j'aurais vraiment besoin de te joindre. Je t'envoie le dossier de mon amnésique. Rappelle-moi pour me dire si tu la connais. C'est urgent. Marc, ouais, j'ai un gros problème là. La fille, elle s'est échappée. Et puis, il n'y a pas que ça.
2021. Nouveau roman de Guillaume Musso. Le titre? Devinez. L'inconnu de la Seine. Ah, quelle surprise. Mais le mythe est, paraît-il, je cite, dépoussiéré. Une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine, au niveau du Pont Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police, d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Et les analyses ADN, les photos, révèlent son identité. Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un crash d'avion un an auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidée à éclaircir ce mystère. Comment peut-on être à la fois morte et vivante? Rendez-vous. Finalement, sait-on enfin qui était vraiment cette Mona Lisa de la Seine? Toujours pas. Mais sans arrêt de nouvelles hypothèses. Une certaine Valérie, enterrée au Père-Lachaise. Marie un Anglais de Saint-Pétersbourg. L'origine du masque est même remise en doute. Comment ça, remise en doute? Il s'agirait finalement du visage d'une jeune fille morte de la tuberculose dans les années 1870. Donc, pas noyé dans la Seine, c'est ça? Exact. Ou alors, encore celui d'une jeune fille ayant posé comme modèle d'atelier pour des peintres. Le moulage sur nature qui a déclenché la passion autour de l'inconnu résulterait simplement de la prise d'empreinte de son visage. Donc, quand la jeune fille était encore vivante, ouais, finalement, eh bien, le mystère reste entier. Du coup, de quoi donner des idées à des concepteurs de réalité virtuelle. Ah, il ne manquait plus que ça, ouais. Un jeu genre escape game, quoi.
La noyade de cet inconnu ne ressemble aucunement à un accident. Une enquête approfondie s'impose.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, commissaire Valentin?
Ah, regardez autour de vous, Beautrelet. Cette affaire suscite beaucoup trop d'intérêt.
Édition spéciale! Une fille morte retrouvée dans la Seine!
Une enquête spatio-temporelle en réalité virtuelle pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à cet inconnu retrouvé noyé sur l'île Saint-Louis à Paris. Résoudre l'énigme plus de 100 ans après les faits. Suicide ou meurtre, indices et cartes fournies, mais aussi casques de réalité virtuelle. De quoi vous plonger dans l'univers du Paris de la Belle Époque. Expérience immersive à 360 degrés, en pleine île Saint-Louis. Mélange jeu de piste en extérieur et réalité virtuelle. Sensation garantie. Devenez un des premiers enquêteurs spatio-temporels de l'histoire. Inscrivez-vous sur le site Inconnu de la Seine. J'ai vérifié, il y a des places. Et le cinéma? Eh bien, il paraît que la Mona Lisa de la Seine aurait inspiré François Truffaut. Peut-être pour son film Jules et Jim? Ouais. Dans la scène où Catherine, amante de l'un puis de l'autre, se donne la mort avec Jim en précipitant son automobile du haut d'un pont, sous les yeux de Jules, évidemment. Et Serge Gainsbourg lui-même, ouais, eh bien, on écoute un extrait de sa chanson « La noyée », inspirée, paraît-il, par notre cher inconnu.
Tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir et moi courant sur la rive, je te crie de revenir, mais lentement tu t'éloignes et dans ma course est perdue.
Toutes ces informations sur l'inconnu de la Seine, je les ai trouvées dans un article très complet de Lisa Bach, paru sur le site Paris Zigzag, et aussi dans le recueil « Paris mystérieux et insolite » de Dominique Lesbrault. Bon, on a écouté Gainsbourg. Le groupe de musique métal français, Def Mercedes, est un peu plus hard rock, j'avoue. Mais il compatit très joliment au sort de notre inconnu. Titre du morceau? Non, je n'ose pas vous le dire, toujours le même. Au moins, on sait de quoi il est question. Allez, on écoute Def Mercedes en 2013. La chanson est en français, mais je pense que je peux vous redire les paroles peut-être plus clairement. Compagne de l'encre de la vase, t'as voulu quitter ce monde trop dégueulasse, préférant les eaux crasses du fleuve Seine à la vie crasse pourricienne. Mais on t'a trouvé, pas laissé en paix, pour dissiper, laver, purger la vie d'avant, t'en rendant immortel et figé sans la vie. Bon, alors, la fille la plus embrassée du monde, il serait temps, non? J'avoue, mais savez-vous que vous aussi, quoi, que vous l'avez peut-être embrassée? Ah ah, la bonne blague. Dites un peu pour voir, j'ai besoin d'être convaincu. Alors voilà, près d'un siècle après sa mort, l'inconnu de la Seine va connaître une nouvelle popularité, plutôt inattendue. Asmund Lerdal, vous connaissez? Non, normal, norvégien, directeur d'une entreprise de jouets, encore un inconnu, tiens. Il s'est noyé, lui aussi? Non, mais vous allez voir le rapport. En 1960, Asmund décide de mettre au point un mannequin. Un mannequin, ouais, mais rien à voir avec la mode. Un mannequin d'entraînement au premier secours. Noyade, urgence cardio-respiratoire. Un mannequin conçu pour simuler l'appareil respiratoire d'un être humain. Ouais, avec la forme d'un corps humain, pour faciliter l'entraînement. Et alors? Rapport avec la fille la plus embrassée du monde. Et rapport avec l'inconnu de la Seine. Vous allez voir. Devinez ce qui fascinait Asmund chez ses grands-parents? Quoi? Le masque de l'inconnu, peut-être? Exact. Alors? Eh bien, il est particulièrement marqué par le visage de la jeune Parisienne. Alors, il décide de donner à son mannequin les traits de l'inconnu, notre inconnu. Et il lui donne une identité, figurez-vous. Un prénom? Ouais, Anne. Tiens, d'accord. Du coup, le mannequin est appelé Resuski Anne, réanimée Anne. Bon, mais pourquoi la fille la plus embrassée? Eh bien, parce que Anne, entre guillemets, est notamment employée pour l'apprentissage du bouche-à-bouche dans le monde entier. Des générations entières d'apprentis secouristes l'ont donc embrassée. Vous aussi d'ailleurs, peut-être si vous avez pris des leçons de secourisme. Anne est donc bien la femme la plus embrassée du monde. Ah, ça y est, la boucle est bouclée. Ironie du sort, ce mannequin au visage de la noyée de la Seine aurait permis de sauver plus de 2,5 millions de personnes depuis 1960.
La noyée, muse de multiples artistes, aida alors à sauver des vies, bouclant ainsi son destin hors du commun, commencé par sa mort dans les troubles eaux de la Seine.
Devinette, rapport entre notre inconnu de la scène et Michael Jackson. Eh bien, la chanson, Smooth Criminal. Rapport, la chanson raconte, figurez-vous, l'histoire d'une certaine Anne, le mannequin, ouais, la fille la plus embrassée du monde, ouais, Anne assassinée par un Smooth Criminal, un meurtrier charmant, subtil et suave. Beau parcours, non? Pour la petite noyée anonyme de la Seine des années 1880.
I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.
Ouais, tout est parti du masque mortuaire de la jeune noyée, un simple petit moulage, devenu œuvre d'art à la mode. Œuvre d'art qui a fasciné, inspiré écrivains, chanteurs, cinéastes. La création, l'art ont assuré, une fois de plus, l'immortalité à la beauté et à la jeunesse. Comme ces récits tirés de la nuit des temps que je vous ai racontés dans Rendez-vous compte cette année depuis septembre et qui jouent en sourdine derrière notre réalité la plus quotidienne. L'histoire de cette belle noyée devenue aujourd'hui à travers le monde mannequin d'entraînement au secourisme. Alors, vraiment, les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Tiens, mais c'est le sujet du bac de philosophie de cette année? C'est ça. Alors, petite dédicace au passage à Raoul, mon copain, prof de philo. Raoul qui voit le monde avec un regard de plus en plus, comment dire, philosophique. Philosophie, art, culture, musique, histoire stupéfiante, celle de la belle noyée de la Seine. Ainsi s'achève notre dernier rendez-vous compte. En juillet et août, vous pourrez réécouter en podcast quelques-unes des émissions. Zarafa, la première girafe rentrée vivante en France, le véritable Arsène Lupin. À chaque jour suffit sa peine, un récit de tragédie familiale sur fond de guerre d'Espagne. Ou l'histoire du trèfle à quatre feuilles. Ou celle de la galette des rois. Merci à Constance et à Eleanor pour m'avoir fait connaître ce morceau de piano que j'ai choisi comme générique. Merci à Aurélien, Anita, Elena, Martine, Patricia pour leur fidélité. Merci encore une fois à Garance et à Léo. Merci est un mot trop petit pour vous dire merci. Je vous retrouve en septembre pour une nouvelle émission « Livre-nous ton histoire de A à Z », des histoires où passé et présent, mythologie, fiction, science, art et culture se rencontrent. Des histoires que je vous raconterai en suivant l'ordre alphabétique, peut-être en commençant justement par le mot « alphabet ». Bon été et à bientôt. C'était Didier Delattre avec toute une saison d'histoires qui vous auront fait dire, je l'espère, rendez-vous compte.